France Inter.
France Inter, il est 19h. Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Voir des œuvres d'art pour s'élever un peu dans ce monde en plein chaos. Les visiteurs se sont précipités ce week-end au Centre Pompidou à Paris pour les derniers jours d'ouverture de la collection permanente. Elle ferme demain pour 5 ans de travaux. Un monde en plein chaos, la Syrie bascule de nouveau. Tuerie de masse, la minorité alaouite prise pour cible, c'est la minorité du régime déchu. On tentera de comprendre qui sont les responsables de ces exactions et si la situation échappe au nouveau pouvoir. Et au moment où l'Europe a décidé de se réarmer face aux menaces russes. Après la réconciliation de Moscou et de Washington, la présidente de la Commission l'assure, il s'agit de défense, mais aussi de sauver l'économie de l'Union européenne. Le verdict est tombé pour le rugbyman Antoine Dupont. Rupture des ligaments croisés, on le craignait depuis hier. Et sa sortie du match contre l'Irlande dans le tournoi des Six Nations, sa carrière suspendue pendant plusieurs mois. On se demandera s'il pourra retrouver son meilleur niveau. Nous irons aussi au moulin de Valmy, patrimoine en péril dans la Marne. Et du côté de la météo, les alertes oranges au vent autour de la Méditerranée ont toutes été levées, mais ce sera encore instable demain dans le sud-est, Céline Dacosta.
Oui, avec encore des averses localement orageuses, plus marquées sur le pourtour méditerranéen.
Le point complet sur la météo à la fin de ce journal. France Inter. Un musée en fête avant une très longue fermeture. Et pas n'importe lequel, le Centre Pompidou en plein cœur de Paris. 50 travaux l'attendent. Dernier dimanche pour admirer donc les Matisse, Chagall, Miro, Brancusi, Louise Bourgeois, Frida Kahlo ou Sophie Delaunay. La collection permanente ferme demain, mais avant le grand déménagement des œuvres, la foule était au rendez-vous pour profiter du plus grand musée d'art contemporain du pays. Plus de 3 millions de visiteurs l'an dernier. Benjamin Elie, vous avez pu mesurer à quel point les amateurs d'art, les Parisiens, les touristes et les personnels sont attachés à Beaubourg. Dernière visite guidée.
Après vous, allez, on prend la fameuse chenille ou les escalators accrochés à la façade du Centre Pompidou. Direction les 4e et 5e étages, les étages de la collection permanente.
Merci à vous. Et puis, allez voir de la croix.
C'est Pascal Gourmelin, votre fonction ici ?
Agent d'accueil de surveillance depuis quasiment 35 ans.
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein.
Tant mieux, parce que ça aide à nous faire passer la pilule, si tu m'exprimes ainsi.
Combien de fois vous êtes tombé sur des visiteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils ont sous les yeux ? Là, par exemple, ce monochrome donc de...
Yves Klein. Et souvent, c'est vrai, j'entends... Je suis pas cassé, moi. Mon gamin, il ferait la même chose.
Alors, qu'est-ce qu'il faut voir de plus qu'un aplat de bleu roi, si je qualifie...
Bleu la... outre-mer foncé.
Pardon,
s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Eh bien, il faut voir que Klein fait de la couleur le sujet principal du tableau.
On était au 5e, on va au 4e.
On est plutôt voisins au Centre Pompidou, on habite dans le 10e. Ouais. Et c'est un lieu culturel de mon enfance. Donc c'est important pour nous, en tout cas, de lui dire au revoir pour 5 ans.
Alors, je m'appelle Selma Toprak-Denis. Je suis directrice adjointe des publics au Centre Pompidou. Alors, on va retrouver la collection au Grand Palais dès le mois de juin. Et puis, un peu partout en France, on va les retrouver à Lille, à Toulon, à Grenoble, à Lyon, à Auxerre, Bordeaux, enfin Nantes, un peu partout.
Le Centre Pompidou, lui, reste ouvert jusqu'au 22 septembre, où il y aura des expositions temporaires avant de débuter ces travaux colossaux de désamiantage et de rénovation programmés jusqu'en 2030. La sortie, c'est par où la chenille ? C'est par là.
Benjamin, il y a dernière chance de voir la collection permanente au Centre Pompidou. Donc demain jusqu'à 21h, l'entrée est gratuite pour l'occasion. Des tueries de masse, l'horreur de la guerre civile plane de nouveau sur la Syrie. 3 mois après la chute de Bachar al-Assad, les Alaouites, sa minorité qui tenait le pays depuis un demi-siècle, sont devenus la cible des nouvelles forces dirigeantes. Le dernier bilan d'une ONG s'élève à 830 morts, de nombreux civils massacrés dans l'ouest du pays. Meurtre de masse condamné par l'ONU, les États-Unis, Londres, Berlin, Israël. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Le nouveau président Ahmed al-Sharrah, issu des groupes islamistes ayant fait tomber Bachar al-Assad, Ahmad al-Sharrah, appelle à l'unité et à la paix civile. Il annonce la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur les tueries, désigner les responsables et les traduire en justice. Christian, que sait-on pour l'instant des auteurs de ces tueries ?
Écoutez Amélie, ceux qui mènent la répression dans le pays alaouite appartiennent d'abord aux anciens combattants de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement islamiste radical créé par Ahmed al-Sharrah, le président par intérim. Et puis autour de lui, il y a des éléments issus de la nébuleuse djihadiste d'Al-Qaïda, il y a des Ouïghours, des Tchétchènes, des membres de groupes sous la tutelle de la Turquie, notamment des combattants de l'armée nationale syrienne et des vétérans du djihad arabe ou européen. Autant de groupes et d'individus sur lesquels le pouvoir à Damas n'a pas forcément la main à 100%. Mais au total, ce sont plusieurs milliers d'hommes aguerris qui se sont lancés à l'assaut du fief de l'ancien pouvoir de Bachar al-Assad pour soumettre par la force la communauté alaouite.
Alors peut-on dire, Christian, que le nouveau chef de l'État, Ahmed al-Sharet, est en train de se faire déborder par ses alliés?
Écoutez, difficile à dire, mais pour lui, c'est vraiment l'épreuve de vérité. Après la chute du régime de Bachar al-Assad, il avait donné des signes d'ouverture vis-à-vis des différentes communautés confessionnelles et ethniques qui composent la mosaïque syrienne. Symboliquement, Ahmed al-Sharet avait troqué son turban islamiste pour un costume cravate. Le chef de guerre, Mohamed al-Jolani, avait repris son nom à l'état civil. Mais avec ce bain de sang, c'est toute sa crédibilité qui est en jeu, car ces tueries dans le pays alaouite sont un défi autant politique que sécuritaire pour le président par intérim et pose de sérieuses questions sur sa capacité à réconcilier les Syriens et à mener une transition inclusive.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France, merci à vous. Une trêve minée de toutes parts dans la bande de Gaza. Israël annonce arrêter de fournir de l'électricité au territoire palestinien. Un peu plus tôt, l'armée a bombardé le nord de la zone, affirmant cibler des terroristes en train d'enfouir une bombe. De son côté, le Hamas appelle quand même à avancer dans les négociations, à entamer les discussions sur la deuxième phase de l'accord de trêve en vigueur depuis bientôt deux mois. Israël envoie des émissaires pour de nouveau pourparler à Doha, au Qatar. Les États-Unis sont-ils encore nos alliés? La question se pose depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa réconciliation avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine au détriment des Ukrainiens et sans prendre en compte non plus les Européens. Bien sûr que ce sont encore nos alliés, répond aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais il faut aussi désormais compter sur nous-mêmes et renforcer nos armées. Ursula von der Leyen se félicite de la mobilisation des dirigeants européens pour son plan Réarmer l'Europe. 800 milliards d'euros pour investir dans la défense européenne. Ce sera bon pour l'économie, veut croire la patronne de l'UE.
Le potentiel d'innovation et économique de l'Europe est un outil pour sa sécurité. Et inversement, ces efforts de défense peuvent massivement stimuler un marché unique plus compétitif à moyen et à long terme. Les investissements conséquents à venir dans la prochaine génération d'équipements militaires et d'infrastructures de sécurité européens peuvent donner des ailes à des industries stratégiques pour l'accélération de la numérisation, la modernisation des réseaux de transport, les applications de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les communications sécurisées. Tout cela est aussi important pour la sécurité de l'Europe que pour sa compétitivité.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quant à la France, il faut accélérer pour pouvoir construire davantage de munitions, plus de rafales, dit aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Pour Yaël Braun-Pivet, le vote d'une augmentation du budget de la défense ne fait pas débat. Ce doit être la priorité des députés, quitte à bousculer l'agenda du Parlement. Le grand désordre mondial depuis le retour à la présidence américaine de Donald Trump. Au Canada voisin, on est aux premières loges. Trump a lancé une guerre commerciale à coup de surtaxes douanières sur les produits canadiens et cela pèse sur la politique canadienne. Au moment où Justin Trudeau, démissionnaire, va passer la main, son parti choisit aujourd'hui son successeur et donc le futur Premier ministre. Le favori, c'est un ancien directeur des banques centrales canadiennes et anglaise, la correspondance de Nafi Alibert.
Le vote est maintenant clôturé, les membres du Parti libéral du Canada ont fait leur choix et d'ici quelques heures, on connaîtra le nom de la personne qui remplacera Justin Trudeau. La course à sa succession aura été éclair, à peine deux mois se sont écoulés depuis l'annonce de sa démission, quatre candidats sont en lice et c'est Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, qui fait figure de favori. Même s'il n'a pas d'expérience en politique, sa carrière en finance et en économie lui a permis de bénéficier de l'appui de la majorité des députés et des ministres fédéraux. Il s'oppose à Chrystia Freeland, l'ancienne vice-première ministre et ministre des Finances, mais aussi Karina Gould, une députée libérale, et enfin Frank Bellis, un homme d'affaires montréalais. Alors les résultats seront dévoilés lors d'un événement à Ottawa plus tard aujourd'hui. Justin Trudeau y fera un discours et un hommage lui sera rendu. Le vainqueur, lui, deviendra non seulement chef du Parti libéral, mais aussi le nouveau premier ministre du Canada, du moins jusqu'aux prochaines élections fédérales qui s'annoncent imminentes. Nafi Alibert, Montréal, France Inter.
Et cette semaine, mardi, un autre peuple dans le viseur de Donald Trump va voter, le Groenland, convoité par l'Américain. L'indépendance de ce territoire aujourd'hui danois est au cœur de la campagne des législatives. Indépendance souhaitée par de nombreux Groenlandais et envisagée par la constitution danoise avec l'accord du Parlement.
France Inter, Amélie Perrier.
Une affaire de harcèlement à l'école devant la justice demain, mais cette fois c'est l'enseignante qui est visée. Le 21 juin 2019, Evaëlle, petite fille de 11 ans, était retrouvée morte, pendue dans sa chambre. Sa professeure de français est convoquée devant le tribunal correctionnel de Pontoise demain, pas directement pour la mort de l'adolescente, elle est poursuivie pour harcèlement, pour ses actes et paroles répétés à l'encontre de la jeune fille Ariane Grissel.
Aux yeux de la juge d'instruction, cette enseignante a, par son attitude, dégradé les conditions de vie d'Evaëlle, ce dont la professeure de français devra répondre dans un procès qui, précise Delphine Meillet, l'avocate des parents de la collégienne, est une première.
Il y a un caractère inédit à cette audience où un enseignant est traduit devant un tribunal correctionnel pour avoir commis un harcèlement moral, quand bien même est-elle présumée innocente. Ce qu'on lui reproche, c'est de l'avoir humiliée régulièrement devant la classe, de lui avoir interdit d'avoir un classeur particulier à alors qu'elle avait le droit, l'isoler au fond de la classe, alors qu'elle avait des problèmes de vue et qu'elle voulait être au premier rang, mais ça lui était refusé.
Et ce comportement a, selon les proches d'Evaëlle, ouvert la voie au harcèlement de la collégienne par certains camarades. En février 2019, l'adolescente change d'établissement. 4 mois plus tard, le dernier jour avant les vacances d'été, elle se dispute avec un ami, rentre chez elle et se suicide. Une affaire qui a marqué les esprits et la loi, selon Delphine Meillet.
Depuis 2022, existe l'infraction elle-même de harcèlement scolaire, ce qui n'existait pas au moment des faits. Là, on est sur le harcèlement moral. Il y a eu une prise de conscience de ce que c'était, et notamment, manifestement, à cause du drame du suicide d'Evaëlle.
L'enseignante mise en cause conteste de son côté tout fait de harcèlement et dit attendre ce procès avec impatience pour donner sa version des faits.
La professeure est également jugée pour harcèlement sur 2 autres élèves. Elle encourt 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le mal-être des policiers maintenant, avec une expérimentation tuée dans l'œuf. La réduction du temps de travail des agents. Des semaines de 4 jours, des commissariats avaient tenté la réforme, mais ça n'ira pas plus loin. Et cela provoque la colère des syndicats de la profession en souffrance, croulant sous des millions de procédures. Ils manifestent depuis la semaine dernière, Emmanuel Leclerc, contre l'arrêt brutal de cette expérimentation.
À Charleville-Mézières, on attendait encore il y a 3 semaines le passage de l'inspection générale de la police nationale qui devait évaluer le système de semaine à 4 jours quand tout s'est arrêté du jour au lendemain. Yann Bassière est le délégué national investigation pour le syndicat Unité Police.
À Charleville-Mézières notamment, nous avons un site qui fonctionne très très bien en semaine de 4 jours et eux, ils ne comprennent pas déjà que l'IGPN qui devait faire un audit ne soit pas venu les voir.
À Grenoble, on attend également toujours l'IGPN sur cette expérimentation ou encore à Fréjus. Juste, il devait y avoir un sondage en ligne, mais les enquêteurs n'ont jamais reçu le moindre questionnaire. Reste qu'un délégué d'un syndicat officier nous confiait récemment que cette semaine des 4 jours dans la police était une fausse bonne idée, impossible à généraliser dans les grands services de police judiciaire qui enquêtent sur de longues périodes contre le crime organisé.
Sur la criminalité organisée, ça peut être compliqué, même si on a vu qu'à Nice, il y avait des bons effets. Mais en dessous, sur la police du quotidien que chaque citoyen rencontre en allant déposer plainte. C'était une très très bonne idée pour redonner de l'attractivité à cette filière agonisante.
Le syndicat de gardiens de la paix Unité Police espère donc que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau prolongera finalement cette expérimentation de la semaine des 4 jours au moins dans les commissariats.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. 6 personnes mises en examen, elles avaient été arrêtées mardi dernier à l'aéroport à Roissy-Charles-de-Gaulle avec pas moins de 211 kilos de cocaïne dans leur valise, valeur estimée plus de 6 millions d'euros. Mise en examen pour trafic de stupéfiants de ces 4 femmes et 2 hommes âgés de la 20aine à 50 ans. Tous ont été mis en détention provisoire. C'était une victoire à la Pyrrhus. On le pressentait hier après le triomphe du 15 de France face à l'Irlande et la victoire en vue dans le tournoi des 6 nations. La sortie d'Antoine Dupont sur blessure laisse un goût amer. La star du rugby tricolore le confirme. Rupture des ligaments croisés. Fin de saison pour plusieurs mois et c'est un coup dur pour le capitaine du 15 de France et pour son club, le Stade Toulousain, en lice pour la Coupe d'Europe. Écoutez l'analyse de notre consultant Guy Akoseberi.
Dans ce genre de blessure, c'est toujours le joueur qui doit prendre bien sûr énormément sur lui, anticiper le fait qu'il va y avoir une convalescence de plusieurs mois, parce que c'est une blessure qui est longue. Antoine Dupont l'a déjà vécu en 2018, donc il connaît bien la blessure. C'est ça qui explique aussi son état de suite sur le terrain. Il a de suite compris que c'était les croisés. Quand on entend Grégory Aldrit dire qu'à la mi-temps, il pleurait dans le vestiaire, c'est ça qui est le plus dur à accepter, en sachant surtout que pour Antoine, il y avait les échéances de fin de saison avec Toulouse, la Coupe d'Europe, le championnat. Voilà, les meilleurs moments de la saison. Ce qui est positif, je dirais, avec Antoine, c'est que lors de sa première blessure, il avait une récupération très rapide par rapport à d'autres sportifs. Ça vient de ses qualités physiques exceptionnelles. C'est une boule d'énergie, une boule de muscles, et il est très costaud au niveau musculaire, au niveau des quadriceps. Donc, il a vraiment la morphologie pour bien récupérer. Bien sûr, dans notre sens, c'est arrivé à d'autres joueurs d'avoir ce même type de blessure. Je pense même à Anthony Gelonche, qui lui a eu deux genoux en un an, qui est à nouveau en équipe de France. C'est propre à chacun, mais comme je le dis, Antoine Dupont a vraiment la morphologie pour bien récupérer de ce genre de blessure.
Le consultant rugby de France Inter, Guy Akosseberry, interrogé par Jean-Pierre Blimeau. Et dans le tournoi des Six Nations aujourd'hui, l'Angleterre a vaincu l'Italie 47 à 24. L'Angleterre deuxième au classement, désormais derrière la France en tête. Les Bleus joueront le week-end prochain pour le dernier match du tournoi contre l'Écosse à domicile, 21h samedi, au Stade de France près de Paris. Le biathlon France est toujours aussi fort. L'équipe de France masculine s'est imposée aujourd'hui dans le dernier relais de la saison. C'était en République tchèque. Les Français décrochent le globe de la spécialité à l'issue de l'ultime relais, surtout de la carrière de Johannes Bø. Le Norvégien prend sa retraite à la fin de la saison. Un Belge vainqueur de la première étape du Paris-Nice. On l'attendait. Tim Merlier n'a pas déçu. Il a survolé le sprint de l'épreuve cycliste dans les Yvelines aujourd'hui, avant de partir direction la Côte d'Azur. Nicolas Perronnet.
Il était le grand favori, il l'a prouvé en s'imposant largement. Avec un vélo d'avance sur la ligne d'arrivée, le sprinter en forme de ce début de saison, Tim Merlier, s'offre déjà sa 5e victoire de l'année, la 2e de sa carrière sur Paris-Nice, après un succès en 2023, déjà sur l'étape inaugurale de la course au soleil. Le Belge devance le Français Arnaud Démare, auteur d'un sprint plutôt encourageant pour la suite, car les sprinteurs auront à nouveau l'occasion de s'illustrer deux fois pendant l'épreuve et notamment dès demain, avec une arrivée à nouveau taillée pour eux à Bellegarde dans le Loiret. Jonas Vingegaard, le grand favori, lui, pour la victoire finale dimanche sur la promenade des Anglais, a passé une journée assez tranquille. Protégé par ses coéquipiers de la formation Visma, à l'avant du peloton, le Danois, double vainqueur du Tour de France, fait cette année son grand retour sur Paris-Nice qu'il n'a jamais remporté. Son objectif du jour est atteint, éviter les pièges et les chutes avant de retrouver son terrain de prédilection, la montagne, en fin de semaine prochaine.
Nicolas Perronnet, ce n'est pas sur le parcours, mais cela vaut peut-être le détour dans l'Est, à Valmy, dans la Marne. Un centre historique est installé dans un moulin dont les ailes sont en piteux état. 100 000 euros sont nécessaires pour les restaurer. Le moulin de Valmy, c'est un symbole de la République, mais aussi de la région, théâtre des affrontements entre les armées françaises et prussiennes à la fin du XVIIIe siècle. Un monument rongé aujourd'hui par un champignon. Alors, Fanny Gelb, un appel aux dons a été lancé ce week-end.
Autour d'une table dans le centre historique de Valmy, le président de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, Bertrand Courreau, lève son stylo.
C'est beaucoup d'émotion pour tout le monde ici, parce que le symbole de notre territoire, c'est précisément le moulin de Valmy. Donc perdant ses ailes, ça a affecté l'ensemble de notre territoire. C'est une première pierre, on est content, on est fier de voir que cette opération va pouvoir se mener.
À ses côtés, le préfet de la Marne, Henri Prévost. Pour lui, donner même 5 euros, c'est comme s'allier en un sens au moulin.
Je crois que c'est important que les Françaises et les Français puissent participer à l'histoire et à cet attachement au patrimoine. C'est un patrimoine qui est commun. Le moulin, il est très visible. Aujourd'hui, de l'autoroute, il y a des millions de personnes qui le voient. Et se dire, j'ai un peu contribué à ce que les ailes puissent tourner, c'est un beau symbole, ça donne envie de participer.
D'autant plus que ce moulin est symbolique. Symbolique pour la France, mais aussi pour Valmy et ses habitants.
J'ai qu'un mot à dire, c'est enfin. Enfin, on va retrouver ses ailes.
Cédric François est le maire de la commune.
On est tout le temps en train de me poser la question. Nous avons un restaurant où la patronne vient souvent me voir en me disant « Bah oui, on m'a encore demandé quand est-ce que ça allait ?» Et maintenant, je peux lui répondre que ça va arriver.
Une inauguration prévue en juin avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, marraine de ce projet.
Le reportage ici, Champagne de Fanny Gelb. La cagnotte est accessible sur le site de la Fondation du Patrimoine. Des vendanges très décevantes aux hospices de Nuit-Saint-Georges en Bourgogne. C'est la petite sœur des prestigieuses enchères des hospices de Beaune. La vente de nuit a rapporté moins de 900 000 euros cette année. Le nombre de lots était historiquement bas. Les enchères ont ainsi chuté de plus de 60% par rapport à l'an dernier. Et puis, dernières heures pour nous écrire, pour tenter de rejoindre le jury du Livre Inter. Jury composé uniquement d'auditeurs, lecteurs et présidé cette année par une écrivaine incroyable, Marie-Hélène Lafont. Lisez d'elle Les Sources ou encore Histoire du Fils. Alors si vous aimez la littérature, si vous avez envie de choisir le prochain prix du Livre Inter, écrivez-nous, racontez-vous sur le site de France Inter ou par courrier à l'adresse Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. On passe au temps.
La météo avec Utopia.
camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Un changement d'ambiance pour ce début de semaine.
Et oui, c'est vrai, fini le ciel calme et printanier dont on a profité sur une grande partie du pays toute la
c'était
semaine.
Bien.
C'était bien, c'est vrai. C'est le retour d'un ciel plus hésitant, avec sur les trois quarts du territoire une alternance de nuages et de faibles averses. On pourrait localement avoir encore quelques éclaircies, notamment dans le sud-ouest et en remontant vers les régions centres dans l'après-midi. Et puis ce sera toujours bien perturbé sur un gros quart sud-est, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Languedoc-Roussillon, la région PACA, avec là un ciel agité, des averses marquées, parfois orageuses encore, surtout près de la Méditerranée, et avec toujours du vent, mais beaucoup moins que ces derniers jours.
Et avec des températures encore douces.
Oui, en tout cas dans le sud-ouest et en Corse, les seuls endroits où on pourra avoir un petit peu de soleil, le sud de la Corse plus précisément, la moyenne ira de 17 à 20 degrés. Ailleurs, ça baisse un petit peu, hein, 12 à 16 degrés sur la plupart des régions. Le matin, les minimales iront de 4 à 10 degrés, ça reste un petit peu frais. Ce sera plus doux en Corse, où ça grimpera déjà jusqu'à 12 degrés à Ajaccio.
C'est Linda Costa, merci à vous.